Françoise Chevalier, Vengeance. Dans la nuit, Bob roule. Les arbres sont une masse noire immobile qu'aucun vent ne vient troubler. L'air est suspendu comme un dernier souffle qui se retient avant que de mourir sur une dernière exhalaison. Bob revient du bar situé à quelques kilomètres de son hôtel. Rien d'intéressant dans celui-ci, où il avait dû prendre une chambre un peu sordide, faute de trouver mieux. Il était habitué à plus de confort, et en général, il finissait sa soirée en buvant quelques martini dry bien tassés. Après, le sommeil lui tombait d'un coup sur les épaules, et ça lui convenait. Il n'avait pas à barjoter sur le départ de sa femme, une jolie fille qui avait déjà renoncé à cette existence d'épouse avant même de l'avoir entamée. En tout cas, cette fois-ci, il n'avait guère eu le choix, et comme il lui fallait dîner à 15 kilomètres du lieu où il devait dormir, il s'était choisi un restaurant sympathique avec ses clients usuels, bons buveurs et même rigolards. Il n'avait pas abusé, juste quelques verres, puis de cognac et une tournée pour l'amitié. Quand il était sorti, il avait déjà oublié ce que c'était. Par contre, il était certain qu'il s'effondrerait sitôt couché. Bob se mit au volant, en espérant qu'il ne tomberait pas sur un contrôle de police. Il savait qu'il dépassait largement la limite autorisée. Devant ses phares, il a l'impression de voir des yeux énormes comme des lunes et brillants comme des soleils. Ça, c'est bien l'effet de l'alcool. Il s'efforce de rouler droit, à peu près. Seulement, les arbustes qui jalonnent la route le frôlent parfois dangereusement. Bob se sent vaseux, tout bizarre, presque inquiet même. Il rit tout seul, un peu fort. Ses acolytes auraient-ils versé dans un de ses verres quelque substance, un truc pour le droguer? Complètement idiot. Faut-il qu'il soit saoul pour penser ça? Pourtant, il a l'impression d'être surveillé, et cette sensation le met mal à l'aise. Au fond, il sait qu'il a peur, sans en connaître la raison. Oui, il a peur. Soudain, il devine une silhouette au milieu de la route. Il pile, mais trop tard. La voiture dérape sur un brutal, trop brutal coup de volant, et Bob heurte violemment un fang qui fixe sur lui deux grands yeux humides, comme s'il pleurait déjà de devoir s'arrêter de vivre. Bob redresse le volant. Sa voiture tangue, puis reprend sa route. L'adrénaline lui descend dans les jambes. Sa peau, devenue toute moite, se hérisse et son cœur bat trop vite. Il va lâcher. Et lui, ce type si bien, va claquer là, sur cette route, au milieu des sapins qui la font paraître blanche. Pourquoi la route est-elle blanche la nuit et noire le jour? Ah oui, le goudron, voilà l'explication. Seulement, ça ne marche pas. Il a des chemins de terre, alors on doit trouver autre chose. Seulement, ce n'est pas facile. Ça ne tient pas tout seul une explication. Bob n'a jamais su comment il a conduit jusqu'à l'hôtel, comment il est monté dans sa chambre, comment il s'est couché. Tout habillé, probablement. Ses chaussures le gênent, il les envoie balader sans défaire les lacets. Trop compliqué, il a dû essayer. Sa femme, enfin son ex-femme, détestait qu'il se déchausse comme ça. Elle disait qu'il les abîmait. Bob se concentre très fort sur cette idée. Il s'y accroche parce qu'il est certain que tout vient de là, son divorce, le départ de son épouse, parce qu'elle était bien son épouse tout de même. La séparation, c'est à cause des lacets. » Le lit se balance, chavire, se suspend au lustre. Il est trop moche, ce lustre. Décidément, tout est mal foutu ici. Bob commence la liste de ce qui ne va pas. D'abord, la lumière. Drôle, elle ne s'éteint jamais, pas même quand il entr'ouvre les paupières. Puis le bruit de la rue. C'est incroyable, tous ces gens bruyants. Ah, il oublie qu'il va devoir travailler demain, et l'hôtel le fait exprès. Alors que Bob tente vainement de passer en revue tout ce qui cloche, il s'endort. Le lendemain, le voit se doucher avec un sacré mal de tête. Un mois plus tard, Bob se rend dans la même région. Au volant de sa voiture, il écoute les informations. Un incendie pas très loin, deux braqueurs arrêtés, un type mort dans un fossé sans qu'on sache pourquoi, excès de vitesse probablement. Pas de grandes nouvelles, ni attentat, ni Troisième Guerre mondiale. Autant s'en tenir à cela si on veut mener une vie tranquille. Bob n'a pas oublié la cuite phénoménale de juin dernier et s'est juré de ne plus recommencer. Il s'est remis au sport, il a cessé de boire des alcools forts et il a pris la précaution de réserver une chambre dans son hôtel favori. Le coucher de soleil se fait à grands coups d'orange mêlés de bleu pâle. Des nuages de traîne s'étirent comme ces songes dont on n'arrive pas à se défaire. Cette fois, on ne lui refera pas le coup. Il est décidé à revenir à une vie normale. Il va essayer de se trouver une gentille femme, mais pas question de traîner dans les bars. Il a commencé la semaine dernière, par Internet. Il paraît que ça marche bien. Et pas besoin de vouloir faire illusion. Il s'est inscrit dans un club de rencontres des plus draconiens, avec lequel il ne faut pas plaisanter. Ainsi pense Bob en sifflotant, alors que le crépuscule tombe. Loin d'abord, puis proche, jusqu'au moment où il doit allumer ses phares. Il aime bien ce moment où le jour devient nuit. Ça lui rappelle sa petite enfance quand il jouait à se faire peur en allant chercher le charbon dans la cave. Il en remontait tout frissonnant, et sa mère lui demandait ce qu'il avait. Et lui, il répondait que c'était glacial en bas. Personne ne le croyait, mais le rituel avait lieu chaque fois qu'il fallait rapporter un seau de charbon. Un jour, ça s'était arrêté. Il était devenu grand. Bob scrute le ruban lumineux que les phares de sa voiture découpent dans la nuit. C'est net comme une coupe de rasoir, le blanc puis le noir. Plus de demi-teinte, plus de demi-enfance. Une silhouette est au milieu de la route, une forme qui en appelle à sa mémoire, au souvenir déplaisant de ce corps heurté par le capot qu'il avait dû faire réparer. Ce n'était pas la somme demandée qui pesait, seulement le rappel de ce choc et de la trace de sang que Bob n'était pas parvenu à effacer. Pire que la nostalgie d'une femme. Un quelque chose inclassable dans un coin du cœur, comme le murmure d'un papier de soie qu'on déchire. À côté de cette silhouette, 2, 3, 10 semblables et des yeux grands ouverts se rapprochant lentement. Bob appuie sur le frein de toutes ses forces et s'arrête face à une vingtaine de daims, biches, faons, cerfs. Tous avancent lentement vers la voiture. Bob sent la chair de poule lui courir sur les bras et lui saisir la nuque. Il se met à transpirer, il est terrorisé. Insensiblement, la horde s'approche. Bob met la marche arrière et alors qu'il se retourne, voit avec horreur un nombre impressionnant de cervidés qui semblent ricaner. Glacé par cette vision, il remet la marche avant et roule tout doucement, priant pour que les animaux le laissent passer. Ils s'écartent en effet, mais le canalisent vers la gauche. Seul un cerf aux immenses bois reste devant la voiture, un peu en retrait. Il attend un instant, puis fait volte-face. Bob regarde dans son rétroviseur. Il voit les autres venir au plus près. Il fait vrombir son moteur pour s'échapper. Il contrôle un instant son véhicule et, derrière le cerf qui court comme aux abois, il fonce sans plus réfléchir. Au dernier moment, le cerf s'enfonce dans la forêt de sapins. Totalement cerné, Bob est incapable de redresser sa trajectoire. La voiture s'encastre de toute sa vitesse à peine contenue sur un arbre gigantesque dont les branches frémissent à peine. Les fans retrouvent leur mère et les cerfs brament comme au temps des amours. Quand le corps sera retrouvé, on conclura à l'effet de la vitesse ou à celui de l'alcool.